Donc on l'a bien vu, il y a aussi un spectre important dans les types de relations. Comment redonner de la valeur politique et affective aux amitiés et aux liens non romantiques?
Ah, il y a plein de relations en dehors des relations romantiques. On a commencé à les balayer tout au long de ces émissions. Il y a les relations queer platoniques, par exemple, qui sont des relations de soutien, solidarité très fortes, qui n'impliquent pas forcément une dynamique romantique ou sexuelle. Les amitiés sous toutes leurs formes, les sex-friends, je le dis mal. Les relations qui sont purement sexuelles. J'inclus aussi les relations BDSM, dont, enfin, on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont des vraies relations avec leur dynamique spécifique. Il peut y avoir le libertinage, il peut y avoir des gens qui se voient par exemple uniquement dans des clubs, mais ils ont l'habitude d'aller en club ensemble, c'est que de des relations sexuelles par exemple. Mais en vrai, il y a un vrai lien qui se crée, si c'est quelque chose qui est fait de manière régulière. Tu disais comment redonner de la valeur politique à ces liens. En fait, ça va être toujours la question de qu'est-ce qu'on a à donner, et donc ça va être investir le temps de qualité, l'énergie, et quand on a fait toute l'émission sur la répondre aux besoins, ça va être aussi d'imaginer comment tout ce groupe de personnes va pouvoir répondre à des besoins qu'on a l'habitude de déposer dans les relations romantiques.
Bah, ça peut être le besoin de soutien, de tendresse, de partage, de communauté. On va pouvoir en fait retrouver tout ça aussi en dehors de nos relations romantiques. Et ce sont des choses qui sont importantes pour nos vies, pour notre bien-être. Et pourquoi seules nos relations romantiques pourraient nous apporter ça et devraient nous apporter ça?
Ouais. Je me posais la question il y a déjà une dizaine d'années, je pense, sur la question de la tactilité dans les relations amicales, non romantiques. Et je disais, mais pourquoi on n'a pas du contact physique avec des amis comme on pourrait l'attendre dans des relations romantiques? Et on a déplacer tout ce qui était tactile, tendresse et contact, uniquement sur les relations romantiques, alors que le besoin d'être touché, c'est un besoin hyper important. Voilà, c'est un truc qu'on n'investit pas, par exemple, dans les relations amicales.
Qu'on investit peu.
Peu. Et après, ça demande beaucoup de confiance. Moi, par exemple, j'ai des amis qui... je n'ai pas de relation sexuelle et ce n'est pas une relation romantique, c'est de l'amitié. Mais on dort ensemble, on se fait des gros câlins. Enfin, voilà, des choses que classiquement, on mettrait plutôt dans une relation romantique. Mais c'est vrai que ça demande des années pour construire ça.
Oui, et puis c'est être OK avec sa vulnérabilité, celle de l'autre aussi.
Oui. Cette vulnérabilité liée à l'intimité est souvent réservée à la sphère romantique.
Oui. Mais tu disais tout à l'heure, comment on remet de la valeur politique là-dedans? Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai qu'au niveau de la société, l'amitié est très peu considérée, contrairement aux couples et aux relations amoureuses, où on a souvent tendance à dire à considérer que l'amitié, c'est un peu l'antichambre du couple. Donc oui, t'as une vie amicale qui est riche tant que t'es pas en couple, et après, à partir du moment où t'es en couple, ben, c'est ton couple qui est prioritaire. C'est plus facile de se poser la question quand on est en relation non exclusive, de se dire, mais pourquoi en fait les amitiés devrait être juste une antichambre et une salle d'attente de la vraie relation d'amour. Alors qu'en fait, ces personnes, elles nous rendent épanouies, elles sont nos supports au quotidien. Il n'y a pas de raison qu'elles soient déconsidérées et qu'elles deviennent moins importantes aussi à partir du moment où on tombe amoureux, amoureuse d'une nouvelle personne.
Et après, en plus, ça fait des concepts de friend zone, qui est vraiment un truc dégueulasse, je trouve.
Oui.
Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, à vouloir cloisonner comme ça, on se retrouve avec des personnes qui considèrent que rester dans la friend zone, c'est négatif, etc. Il y a un gros problème avec
ça. Oui, c'est vraiment genre, on est amis en attendant de pouvoir coucher ensemble, ça fait un peu ça.
C'est ça.
Alors que les amitiés, ça a des relations qui sont très belles, qui sont aussi souvent très durables, parce qu'on n'y investit pas les mêmes enjeux et les mêmes attentes. Et ça nous permet aussi plus de liberté potentiellement sur nos amitiés et une capacité d'évolution qui nous semble plus naturelle.
Et par contre, par rapport à la question politique, moi je remets un contre-exemple parce que je pense que c'est toujours bien de donner la nuance, parce que je le vois aussi dans les personnes que j'accompagne, des personnes qui se flagellent de ne pas investir suffisamment leurs amitiés, des personnes qui se flagellent de encore tout miser sur l'amour romantique, notamment... Souvent, ce sont des femmes qui considèrent ne pas être des bonnes féministes parce qu'elles ont encore des attentes de leur relation romantique, alors qu'elles ont toute la théorie sur le fait de politiser les amitiés. Et ça fait beaucoup souffrir. Et donc, j'ai envie de dire, oui, c'est bien quand on peut, Mais en fait, c'est pas mal, ça fait pas des mauvaises féministes, des personnes qui ont encore envie de vivre le grand amour et une relation classique. En fait, depuis le début de ces émissions, on est vraiment dans la notion d'agentivité, de qu'est-ce qui me convient à moi. Et remplacer une norme par une autre, à savoir, il ne faut pas surinvestir nos relations romantiques, mais protéger uniquement nos amitiés. Si ça redevient une norme, on a raté le coche.
Complètement. Voilà. Complètement. L'idée, c'est quand même d'être aligné à ce qui nous convient, dans ce qu'on a envie de vivre. Et juste se donner l'ouverture que c'est pas parce qu'on a une nouvelle relation, quelle qu'en soit la nature, qu'on est obligé d'oublier celle qu'on avait précédemment, qu'on est obligé de les arrêter ou voilà, de les sortir de nos vies ou de ne plus les prioriser. Mais si on a envie de prioriser absolument une nouvelle relation, un autre type de relation, libre à nous.
Pour sortir un peu de la binarité des gens déconstruits, etc., qui auraient tout compris, et des gens qui n'auraient pas compris la déconstruction de l'hétéropatriarcat, et en fait, qui font juste comme ils peuvent avec là où ils en sont, et c'est OK. Enfin,
et puis on peut avoir déconstruit et choisir de prioriser son couple.
Complètement. Et de faire des enfants et de se marier si on a envie. En
exactement.
Fait.
Si je t'aime, c'est jusqu'à l'émeute. C'est une vraie maladie. Je fais de mon mieux pour sauver les meubles quand je mets le feu à l'habitude. Je me tais si tu me demandes est-ce que j'ai mal agi. Si c'est bien le bon moment, le bon moment, je sais pas là, je fais pas la diff. Tendu, j'ai tendu tous les bâtons pour me faire battre, tout ce pour les mater, tous ces bâtards. Dans l'hécatombe, j'ai pas d'airbag. Mes critiques les plus barbares, elles sont faites pour et par moi-même. Si t'es capable de voir à travers, s'il te plaît, pars pas.
Alors justement, ce serait peut-être bien de préciser quelques définitions.
Ouais, quelques repères. Alors moi, j'allais proposer de carrément commencer par polyamour, qui est notre terme chapeau sur plein de choses.
Vas-y, Karine.
Donc le polyamour, c'est un mot qu'on utilise depuis le début de ces émissions, et qui est un terme un peu chapeau qui va regrouper plusieurs formes de relations potentielles, où la base, c'est quand même d'avoir plusieurs amours en même temps. Et là, après, la modalité, ça va devenir d'autres termes qu'on va pouvoir définir ensuite.
Oui, moi j'utilise le mot polyamour à titre personnel comme en effet un terme chapeau ou parapluie, mais qui englobe aussi toute la diversité des relations pas forcément romantiques. C'est-à-dire que dans le polyamour, pour moi, ça peut inclure la sexualité, la romantisme et la plurisexualité. Pourquoi je fais ce choix-là ? Parce que comme le polyamour est un peu de plus en plus connu, je vais pas dire à la mode parce que ça m'énerve qu'on dise ça, mais en tout cas il est de plus en plus connu, et donc parler en début d'émission de la pyramide des perceptions sociales, le polyamour étant un peu mieux vu que les autres formes de relations, je trouve qu'utiliser ce terme parapluie pour décloisonner les différentes modes de relations, ça me paraît sensé, mais c'est un choix qui m'appartient. Et donc dans ce vaste bazar qui est le polyamour, il y a un peu d'autres formes.
On peut commencer par solo poly du coup.
On a tellement galéré à définir solo poly.
Alors solo poly qui est formé de solo pour un peu seul, célibataire, et poly pour polyamoureux. Ça semble un peu antinomique dit comme ça, mais ça va plutôt parler des gens qui vont être en relation avec plusieurs personnes, mais qui vont rester avec une priorisation sur leur propre projet perso. Donc pas forcément de projet de vivre avec quelqu'un parmi ses partenaires, et dont les projets personnels vont être prioritaires sur les projets de couple, de relation.
Voilà, c'est un peu le mode de vie célibataire, mais avec plusieurs relations. Où on se priorise, soit il y a des gens qui disent solo poly, c'est d'abord être en relation avec moi-même. C'est un peu voilà, cette volonté-là. Ensuite, il y a l'anarchie relationnelle, qui est plutôt, il me semble, issue du courant anarchiste, qui est l'idée de décloisonner toutes les formes de relations, et donc qui inclut la diversité relationnelle, avec l'idée que chaque relation n'a pas besoin d'une étiquette, donc c'est sortir des étiquettes amour, amitié, etc., famille aussi, pour certaines personnes ça inclut la famille, et juste de dire que chaque relation évolue, ce sont des relations humain-humain, et que chaque relation évolue de manière indépendante.
Et sans y mettre de hiérarchie.
Et sans hiérarchie.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation qui va avoir un droit de regard et un droit de veto sur les autres relations.
Ouais. Il faut quand même dire que c'est souvent une forme qui est idéalisée, où il y a beaucoup de projections sur quelque chose qui serait le saint graal du mode relationnel, et je pense qu'il faut y aller mollo sur
ça. Tout à fait. Et puis, c'est pas parce que les relations ne sont pas hiérarchisées qu'il n'y a pas des privilèges propres à certaines relations par rapport à d'autres. Mmh. Mais c'est juste qu'il n'y a pas un pouvoir d'une relation, d'ingérence potentielle d'une relation sur une autre.
Ouais. Je pense
potentiellement.
Il faut aller lire des bouquins spécifiques à l'anarchie relationnelle.
Oui.
Voilà, pour mieux appréhender ce terme-là. Ensuite, on a le DADT qui veut dire Don't Ask, Don't Tell. Donc Karine va nous dire beaucoup de bien.
Qui est un mode relationnel. Là, c'est plus une sorte de modalité de fonctionnement d'un duo. Mm. Donc Don't Ask, Don't Tell, c'est-à-dire ne demande rien et ne raconte rien. Où on va cloisonner notre communication envers nos partenaires sur ce qui se passe à l'extérieur du duo. Ça peut être très opaque, ça peut être quelque chose de mis en place en début de relation pour sécuriser et ne pas exposer trop vite là où le partenaire à ce qu'on vit en dehors de notre relation, mais ça peut être quelque chose aussi qui peut être coercitif ou toxique, dans le sens où on ignore tout volontairement, mais potentiellement ça peut créer des enjeux un peu compliqué à gérer, notamment sur la gestion de la santé sexuelle, par exemple.
En tout cas, les témoignages de gens qui ont tenté de pratiquer ça se sont retrouvés avec une opacité aussi sur la question de la santé sexuelle et donc un inconfort, une souffrance associée.
Oui, de ce qu'on voit régulièrement aussi dans les témoignages là, au sein de l'asso, c'est que sur un court moment, le « don't ask, don't tell » peut fonctionner pour rassurer, mais sur le long terme, ça peut quand même être un bon nid pour créer de la jalousie. Mm. Parce que là où on ne sait rien, notre cerveau comble les vides et le cerveau aime bien envisager des scénarios catastrophiques.
Après, il y a des gens, je pense, qui fonctionnent très bien avec un date. Et par exemple, des personnes qui vont être beaucoup en voyage et vont avoir des relations épisodiques sur des moments de voyage, etc., qui ne vont pas le rapporter. Ça ne va pas être discuté dans le couple et ça va être bien vécu.
Exactement. Après, ça va dépendre aussi. Voilà, est-ce que ça touche à toute la vie de l'autre ou est-ce que certaines choses sont discutées? Ils ont... Quand tu vis ce genre de choses, ça me concerne pas, j'ai pas besoin que tu me racontes. Mm. En fait, ça va vraiment aussi dépendre de ce qu'on y met, l'intention et le pourquoi on met ce mode de fonctionnement en place.
Ensuite, il y a un autre terme qu'on entend beaucoup, assez fréquent, chez, notamment pour l'ouverture des couples monogames, c'est tout ce qui est relations libres et couples libres. Il y a plein de choses derrière ces mots-là, c'est assez flou, donc il faut vraiment demander à chaque personne ce que ça sous-entend. Globalement, on entend souvent par couple libre une liberté sexuelle en dehors de la dyade, mais pas d'implication romantique. En fait, les gens font aussi avec les mots qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent. Et des fois, on commence avec quelque chose et en fait, on ne sait pas qu'il y a autre chose. Ensuite, il y a les relations BDSM. Et les relations BDSM peuvent être avec ou sans sexualité et avec ou sans dimension romantique.
Oui. Donc, ça reste des relations avec une dynamique qui est très particulière. Une intimité qui peut être très forte et qui ne rentre pas forcément dans nos schémas classiques.
Mais qui peut être des relations tout à fait fortes, avec un engagement très important.
Exactement.
Et qui dure sur le long terme.
Et qui vont avoir un impact sur le quotidien aussi.
Ensuite, il y a la polyfidélité. C'est un groupe de personnes qui décident de relationner ensemble de manière exclusive. 3, 4... Et voilà, il va y avoir du coup une exclusivité romantique et ou sexuelle, mais uniquement au sein d'un groupe de personnes formées. Ensuite, il y a les monopolies. C'est donc une personne plutôt monogame avec une personne plutôt polyamoureuse. Et on a pensé le terme de polyacceptance, du coup, qui est le fait d'accepter que son sa partenaire est un mode relationnel poly lorsque on est soi-même pas concerné et vice-versa.
Pas besoin de candélabres.
débat. Tu me dis d'être pacifiste, mais ton pays vend des armes. Le prix de tes bons sentiments, des litres de sang et de larmes. Si tu vois pas de corrélation, c'est que les plaies sont moins hardcore. Quand t'es du bon côté, du fouet, de la domina. Nos cagoules sont des armures, nos vies indémêlables. Avant l'interpellation, on file comme Mozzarella. Singe en danse et masqué dans le love. Main dans la main, amitié et flamme, alors est là. Pour allumer nos feux, on n'a pas besoin de candélabres. Alcool, bouteille, tissu, lancé sur des candélabres.
Là, on voulait aborder maintenant un thème qui est un grand thème quand on parle de polyamour. C'est l'ouverture des couples monogames, alors pas forcément hétéros, mais monogames, qui veulent faire entrer de nouvelles personnes dans leur vie. Et ce sont des situations qui vont amener pas mal de questionnements.
Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur l'ouverture des couples monogames, même si en plus, enfin, on n'est pas concerné. Mais voilà, on va essayer de donner quelques tips.
Oui, parce qu'en fait, tous les gens polyamoureux ne commencent pas forcément en étant en relation monogame qui s'ouvre. Mmh. Il y a des gens qui se savent polyamoureux et qui commencent à relationner déjà selon ces modes-là et qui ne partent pas donc, d'un couple établi qui décide.
Voir des personnes qui n'ont jamais connu le couple monogame et donc pour qui cette question-là, elle a pas de sens. Et désolé pour ces personnes-là, zappez cette partie de l'épisode. Donc la première chose à faire, c'est de questionner les motivations. Ça peut être très varié les motivations et il y a les motivations dissibles, celles qu'on arrive à peu près à assumer. Et les motivations indicibles, celles qui sont cachées au fond de nous et qu'on n'assume pas trop. Et ben, évidemment, si on veut s'ouvrir, il va falloir mettre les cartes sur la table, réussir à dire ce qui motive ou pas. Là encore, on ramène le concept d'honnêteté radicale parce que afficher des fausses motivations parce qu'on est plus à l'aise de dire que c'est telle raison plutôt que telle autre, bah en fait, ça a créé de l'incohérence dans le discours. Et plus il y a de la cohérence, plus il y a de l'insécurité. Et donc après, on va tomber dans la dynamique de jalousie. Et donc, il vaut mieux dire les raisons réelles ou au moins se questionner avec soi-même.
Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que ouvrir son couple, ça ne résout pas les problèmes de couple. Si on a un couple qui est bancal, qui ne va pas bien, ouvrir son couple peut le déséquilibrer encore plus. Ça va être vraiment quelque chose de challengeant d'ouvrir un couple monogame. Alors si les bases sont pas solides, ça va être encore plus difficile à mettre en œuvre.
Et il y a beaucoup de personnes qui ouvrent parce qu'il y a une insatisfaction dans le couple. Il y a des gens pour qui ça va fonctionner, c'est vrai, mais c'est rare. Enfin, globalement, la plupart des personnes qui rentrent dans des ouvertures pour solutionner un problème de couple, ça va plutôt déstabiliser et faire souffrir. On recommande un peu la BD de Melaka qui s'appelle Libido.
Qui est sur son blog.
Qui est sur son blog, qui parle d'une ouverture de couple. Elle est allée de manière assez honnête, très honnête, pardon, sur l'ensemble de son parcours. Très intéressant par quoi elle est passée dans son couple, les points positifs, les points négatifs. Enfin, moi, je veux revenir sur la possibilité d'externaliser la sexualité, parce que quand j'ai fait mon mémoire de recherche en sexologie sur la question du polyamour, il y avait un peu, pour les couples monogames qui souhaitaient s'ouvrir, ce rapport au désir dans le couple, voilà, le désir est plus vraiment là, et donc ouvrir devient une possibilité d'externaliser la sexualité du duo romantique. C'est pas mal,
c'est pas honteux
et c'est tout à fait possible. C'est possible de rester avec quelqu'un pendant des années et des années, avec une personne auquel on tient très très fort, avec qui on a construit un projet de vie, etc., et de plus avoir envie de sexualité avec cette personne. Et par contre, de vouloir explorer une partie de sa vie et de soi à l'extérieur. Vraiment, faut pas se shamer sur cette partie-là. Par contre, il faut le faire bien.
Voilà. Et par contre, faut être honnête sur le fait que c'est ça qu'on cherche. Mmh. On peut avoir un partenaire de vie, notre partenaire, notre équipier, notre équipière de vie, mais avoir envie d'explorer, oui, complètement autre chose. Mmh. Ce qui est important, c'est que de le faire en conscience pour que la personne puisse consentir réellement à cette ouverture. Et là, on le rappelle, le consentement, on en a un peu parlé déjà. Le consentement, il n'est valable que s'il est éclairé. Et le consentement, il passe aussi par soi-même. C'est est-ce que moi, j'en ai envie ? Et pour savoir si j'en ai envie, il faut que je sache à quoi je m'expose.
Ouais. Et là, il y a des ouvertures de couple qui sont très réussies quand vraiment c'est posé sur la table. C'est-à-dire des gens qui vont être soulagée de plus avoir cette pression à la sexualité dans le duo. Parfois pour des personnes qui avaient, voilà, qui pouvaient vouloir consulter des sexothérapeutes pour des troubles du désir, enfin on appelle ça le désir sexuel hypoactif, et en fait qui vont trouver une solution par elles-mêmes en externalisant la sexualité, qui vont avoir beaucoup de bienfaits. Ça peut marcher, parce que il y a aussi des discours, enfin moi j'entends des discours de non, ça c'est pas bien, je sais pas quoi. Il n'y a rien de bien et de mal, encore une fois, c'est possible et il faut bien le faire. Et donc, on revient sur la méthode, on va dire, pour ouvrir les couples, la question de l'exposition progressive et positive, et de trouver à chaque fois des tout petits pas qui permettent d'aller vers quelque chose qui est plus libre, plus ouvert, et de penser toujours à la temporalité, ça prend du temps. Du coup, j'ai envie de dire, il faut faire gaffe à l'idéalisation du polyamour, où quand on est dans une ouverture de couple monogame, il y a des gens qui disent « oui, on veut fonctionner ». Ils imaginent direct la kitchen table polyamory, quelque chose de « tout le monde s'adore et on est tous super proches, dans un grand polycule merveilleux ». Oui, c'est possible, ça existe, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais ça leur a pris des années et des années et des années de petits pas par petits pas. Revenir sur un rythme qui est très doux, c'est vraiment la clé du succès. Et si c'est vraiment le mode de relation auquel vous aspirez, prenez le temps de le faire et vous aurez peut-être quelque chose de chouette à la fin. La précipitation, les personnes qui arrivent en disant ouverture de couple en 6 mois, on a 6 mois, sinon ça s'arrête.
Déjà l'ultimatum et la deadline sur des relations, c'est compliqué, surtout sur des objectifs pareils. Là, il faut savoir qu'à partir du moment où on ouvre un couple qui est monogame, potentiellement qui est monogame depuis des années, voire des décennies, on n'a plus l'habitude de rencontrer des personnes, d'être dans une dynamique de dating. Il faut reconstruire de la confiance sur cet endroit-là qui n'existait pas auparavant. Et la confiance, ça se construit petit à petit. Et c'est fragile. Et si on ne la consolide pas lentement, ça peut très vite s'effondrer.
Un autre tips, c'est de commencer par là où c'est le plus facile. Et en fait, il y a des gens pour qui ça va être facile de commencer par entretenir un tissu amical avec de la sexualité. Par exemple, il y a des gens, ça va être uniquement de la sexualité, type club, des choses comme ça. Ça va être moins engageant pour eux. Il y a des personnes où, avant même la question de la sexualité, ça va être, bah en fait, c'est ok que t'ailles au cinéma avec d'autres personnes. Et vraiment, il faut commencer par ce qui est le moins activant. On avait un peu parlé du système nerveux et du mode survie, etc.
Exactement, c'est ce qu'on disait sur l'émission précédente sur la jalousie. Rassurez-vous et allez-y petit à petit. Augmentez votre zone de confort et de connu avant de passer un grand pas. On ne passe pas d'un couple monogame à un couple, comme ça, en 6 mois. Ah. C'est quelque chose de... C'est un step qui prend du temps et qui... c'est une configuration qui est rare.
On s'est dit un jour, à ce qu'il paraît, ça finit mal l'amour, tu veux parier? Je sais, ça fait peur, mais on va se marrer. Force, honneur, et vive les mariés. On s'est dit un jour, à ce qu'il paraît, ça finit mal l'amour, tu veux parier? Je sais, ça fait peur, mais on va se marrer. Force, honneur, et vive les mariés. Les rappeurs font leur beurre sur l'amour qui rate, moi-même je connais par cœur la forme de ces stigmates. J'étais un oiseau de malheur, volant parmi les leurs, mon propre prédateur. Pour éviter qu'on m'attrape, tu trembles moins du film d'horreur. Quand tu connais la fin, alors transforme en chasseur le moindre petit lapin. Moque-toi de la routine, de ces losers qui s'obstinent. Tu te fous de la voisine, ses courses du samedi matin. T'es sûr que dans sa cuisine, il la regarde plus depuis longtemps. Et que c'est tout ce qui t'attend si tu laisses libre cours à tous ces rêves qui t'assaillent ces temps-ci. Depuis que vos corps à corps ont dansé, mais quand t'es dans ses bras, avoue qu'il est pâle ton hédonisme. Le pessimisme n'est pas réaliste. Les jeunes amants que l'amour ventouse se promettent autre chose que des partouzes. Avoue qu'il est bon, ce regard d'enfant. T'en oublies d'être tout seul comme un grand. On s'est dit un jour, à ce qu'il paraît, ça finit mal l'amour, tu veux parier? Je sais, ça fait peur, mais on va se marrer. Force, honneur, et vive les mariés. On s'est dit un jour, à ce qu'il paraît, ça finit mal l'amour.
force, honneur et vive les mariés.
Et là aussi, en fait, vous n'avez pas à tout réinventer par vous-même. Il existe beaucoup de ressources. N'hésitez pas à lire, vous rapprocher de communautés pour bénéficier de choses qui existent déjà, du soutien de personnes, de concepts qui existent déjà, de tips, d'outils qui ont été créés par la communauté, plutôt que d'avoir à tout conceptualiser par vous-même. Profitez de l'expérience des autres. Mais voilà, après, la question, il reste toujours de trouver les autres. Mais les autres existent, en fait. Vous n'êtes pas tout seul. Internet est un outil merveilleux pour ça, maintenant, pour trouver des gens et pour parler de ce genre de sujets qui sont pas la norme. Mais vous n'êtes pas tout seul et des ressources existent. Et ça va vraiment vous aider, en fait.
Faut être fou allié pour s'allier quand on est déjà promis aux ténèbres, quand on est déjà promis à la fièvre d'être libre. Alors voilà l'idée, fuck la fatalité, retourne s'habiller, arrête de baliser, verse ton sang pour pas qu'ils aient jamais banalisé. On va s'éterniser, frère. Je mentirais si je disais que j'ai jamais aimé comme ça hier et trêve de bulveuser. Si tu me quittes demain, je reprends les affaires où je les ai laissées, mais je peux pas le taire sans t'idéaliser. J'ai jamais rencontré d'être qui te ressemble de loin ou de près dans le monde qui m'a vu naître et qui devient désert quand tu me bout qu'on se clash, vénère, ça nous bouffe les nerfs. Dans notre terre, pas de guérilla, pas de carottes sur nos terres, y'a pas si longtemps qu'on s'est aimé, sans réclamer des comptes sur qui on catchait. Bouyaka, bouya vous pas, on lui fera la peau à tous ceux qui blessent ou séparent nos bras. La paranoïa, le salariat, les jours qui séquestrent nos draps, tant de corps à corps, tant de MMA, pas de guerre à mort, dans nos pyjamas, je mange, je vais en enfer. L'enfer, c'est les autres, ça sera pas toi et moi. Jamais tricher, jurer, cracher, croix de fer, croix de bois, et vive les mariés.